autour de la question.
Émission spéciale au Next Einstein Forum
à Kigali.
Science has provided the possibility of liberation for human beings from hard labor, but also with the important task of education and enlightenment.
Caroline Lachowski.
Bonjour amis auditeurs depuis Kigali, mais comme vous l'entendez, absolument sans voix. Je l'ai perdu en discutant trop avec les chercheurs ici. Heureusement, Sophie Bécherel de France Inter vient me prêter la sienne et me sauver la vie. Bonjour Sophie, merci mille fois.
Bonjour Caroline, ben oui, vous le voyez, c'est la solidarité du service public qui joue aujourd'hui. Je suis aussi journaliste scientifique comme Caroline sur la chaîne nationale et en tant qu'auditrice régulière de RFI, permettez-moi de vous saluer chers auditeurs. Donc je vais prêter ma voix à Caroline qui avec son réalisateur Nicolas Benita a réalisé tout le travail que vous allez entendre pour vous faire écouter ces scientifiques inspirants depuis l'une des collines verdoyantes de la capitale du Rwanda, celle du centre des congrès où se tient depuis lundi le Next Einstein Forum. 1500 scientifiques africains, la photo est inédite, la moitié d'entre eux ont moins de 42 ans et 40% sont des femmes. Ils et elles sont là pour échanger, pour réseauter, comme on dit au Québec, afin d'édifier une communauté scientifique panafricaine en lien avec la communauté scientifique mondiale. Le Next Einstein Forum consiste aussi à encourager la recherche sur le continent africain et à inspirer les jeunes générations pour qu'ils ou elles s'orientent vers les filières scientifiques. Le prochain Einstein ou la prochaine Einstein viendra-t-il du continent ? Ça n'est pas seulement un rêve, la démographie pousse à y croire. Avec nous pour en discuter, Eliane Oubali-Joro, professeure associée à l'université McGill au Canada et à l'Institut pour le développement international et membre du conseil scientifique et technologique du Rwanda. Un pied sur le continent africain, un pied sur le continent américain. Deux lauréates du Next Einstein Forum, Aminata Garba du Niger, vous êtes chercheuse en télécom ici à Kigali, où vous êtes directrice également du Centre collaboratif de recherche du Rwanda, vous nous expliquerez ce que c'est, et la biologiste Rim Kefi, professeure associée à l'Institut Pasteur de Tunis depuis 2009. Le ministre sénégalais de l'enseignement supérieur et de la recherche, Marie Tenniane, sera aussi des nôtres tout à l'heure. Autour de la question, comment encourager la recherche ici au Rwanda et sur tout le continent ? Bienvenue à tous.
Le Next Einstein Forum sur RFI.
Bonjour Eliane Oubali-Joro, vous êtes avec nous, merci. Vous êtes donc rwandaise et canadienne et surtout une chercheuse engagée dans tout ce qui touche au développement. Professeure associée à l'université McGill au Canada, je le disais, et à l'Institut pour le développement international. Ici au Rwanda, vous êtes membre du Conseil national des sciences et de la technologie et membre du Conseil consultatif présidentiel du Rwanda. En somme, vous avez l'oreille du président Kagame, ou du moins vous lui glissez peut-être des choses sur la politique scientifique qu'il convient de mener. Vous êtes très attaché au développement humain et économique et vous pensez qu'il passe par le développement de la recherche ?
Absolument, je trouve que c'est très important pour les populations locales et les chercheurs qui s'intéressent aux problèmes au Rwanda, de travailler ensemble et de développer une nouvelle génération de chercheurs rwandais et rwandaises qui vont travailler avec la société civile, avec le gouvernement, avec les entrepreneurs pour trouver des solutions aux problématiques locaux et aussi d'innover pour nous aider à créer une prospérité et puis à avancer une économie durable pour le pays et pour le continent.
Aminata Garba, vous êtes une des lauréates du Next Einstein Forum de cette année. Vous faites partie de ces 50% qui ont moins de 42 ans. Votre spécialité, ce sont donc les télécommunications. Vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, originaire du Niger. Vous avez poursuivi vos études supérieures au Canada et en France avant de rentrer en Afrique. Mais finalement, c'est à Kigali que vous exercez votre profession. Vous êtes professeure assistante en génie électrique et informatique à l'université Carnegie Mellon Afrique, et vous êtes aussi directrice du Centre collaboratif de recherche à Kigali. Le numérique, le digital, on le sait, c'est une des spécialités de ce pays. Diriez-vous qu'effectivement le Rwanda est en avance par rapport aux autres pays africains dans ce domaine ?
Il faut dire qu'au Rwanda, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites dans ce secteur-là. Le fait que l'université Carnegie Mellon vienne ici et qui s'intéresse au secteur des télécommunications et d'éthique en est une preuve. Donc, il y a très peu de pays qui font venir des universités de haut calibre pour cela. Il y a EMSC qui est ici, il y a d'autres institutions qui sont ici. Et le but est de créer cette synergie pour pouvoir développer tout un système, pas seulement quelque chose de spécifique, mais un système qui va permettre le développement de capacités dans le secteur des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information, mais aussi promouvoir, surtout promouvoir les innovations et la recherche dans le secteur aussi.
On développera cela tout à l'heure. Bonjour Rimkefi. Vous aussi, vous avez moins de 42 ans, parce que rappelons-le, c'est une condition nécessaire pour être lauréat et lauréate du Next Einstein Forum. Vous êtes professeur associé à l'Institut Pasteur de Tunis. Votre spécialité, c'est l'ADN ancien, donc les fossiles. Mais finalement, la vie a fait que vous vous orientez aussi vers des thématiques d'aujourd'hui. Vous êtes chef d'équipe au laboratoire de génomique biomédicale et oncogénétique et responsable du service de génétique. Alors vous travaillez en Tunisie. Vous avez fait une partie de vos études. Vous n'avez quitté finalement votre pays que par opportunité, c'est ça?
Tout à fait. En fait, j'ai fait mes études. Bonjour tout d'abord. Merci pour l'invitation. Et en fait, j'ai fait mes études primaires, secondaires et universitaires en Tunisie. Et après une maîtrise de sciences naturelles à la faculté des sciences de Tunis, comme j'étais une brillante étudiante, j'ai eu une bourse d'élite pour effectuer un troisième cycle en France en anthropologie moléculaire, qui est une spécialité qui n'existe pas en Tunisie, qui n'existe pas aussi dans la région. Et donc là, c'était une opportunité parce que je n'ai jamais planifié ou programmé de faire des études de troisième cycle à l'étranger. Et donc, c'était l'ADN ancien comme thématique. Donc, j'étais inscrite à la faculté de médecine latine à Marseille pour étudier la diversité génétique des populations nord-africaines préhistoriques.
Rentrer en Afrique, ça n'est pas toujours évident. On développera tout à l'heure cela. Constituer un réseau entre vous tous, vous toutes, pour être plus efficace, c'est aussi le but du Next Einstein Forum. Et parmi les deux pays qui ont soutenu et porté l'initiative depuis le départ, il y avait le Rwanda et le Sénégal. Alors évidemment, les présidents Paul Kagame et Macky Sall étaient présents pour ce deuxième forum. On a retrouvé à la tribune les chefs d'État lors d'une rencontre animée avec le talent qu'on lui connaît par Didier Akwe, bien connu des auditeurs de RFI, extrait remixé numériquement, humoristiquement et politiquement par Nicolas Benita.
Monsieur le Président Macky Sall, vous êtes l'hôte de ce sommet que vous aviez abrité il y a 2 ans. Et si vous vous souvenez, lors de cette session, vous deviez faire un selfie avec le président Kagame sur scène. Mais vous n'avez pas votre téléphone. Est-ce que vous avez votre téléphone cette année, monsieur le président? President Kagame, le moment est d'accord. I'm surprised. He keeps tweeting. He's like a geek. Almost 19,000 times when I wouldn't tweet him. It's just impressive. How do you do that?
Well, I'm getting younger, not older.
I have not come to speak of death. I have come to speak of life. I have not brought with me the darkness, but have carried the light of 1,000 suns to your door. I have not come to sing a song of sorrow. I have not come to remind you of tears, but of triumph, of a proud people rising, that dignity written upon the sky.
Eliane Oubalijoro, c'est un geek, le président Paul Kagame?
En tout cas, ça me fait, il faut que je reprenne mon sérieux. C'est un passionné de tout ce qui est... C'est un curieux intellectuel, scientifique, technologique. C'est quelqu'un qui a une soif incroyable de connaissances et qui est constamment à la recherche de discussions avec les experts sur la planète et aussi avec la jeunesse qui est en train d'explorer. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui va à la recherche des scientifiques et qui veut s'asseoir avec eux. Et je me souviens, la première fois que je l'ai rencontré, j'ai fait mon doctorat en génétique moléculaire et j'étais vraiment surpris de la qualité d'interaction que j'ai eue avec lui en discutant du potentiel de la génétique moléculaire, de la biotechnologie au niveau de la santé. Et ça continue, ça fait plus de 10 ans que je l'ai rencontré pour la première fois. Et je vois que son intérêt pour la science ne fait que grandir.
Dans les télécommunications, le numérique, c'est la même chose, Aminata Garba. Vous sentez cette appétence du président? Il n'y en a pas tant que ça dans le monde, hein, qui sont curieux des questions scientifiques et technologiques.
Oui, c'est évident. On en voit avec toutes les activités qui sont menées. Personnellement, j'ai pas eu beaucoup d'interactions directes avec le président, mais avec le ministère des Nouvelles Technologies de l'Information, qui est le représentant du gouvernement. Donc, j'ai eu beaucoup d'interactions et ils ont un département pour l'innovation, un département spécifique dédié à l'innovation. Et on voit vraiment cet intérêt, cette motivation. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, on nous consulte beaucoup quand il y a des questions d'innovation, des questions qui sont apportées. Ils nous appellent au niveau du ministère des technologies de l'information. Donc il y a cette collaboration du ministère avec les universités sur plusieurs aspects. C'est motivant.
Je vais essayer avec ma voix de vous poser une question en chuchotant, Aminata. C'est pour ça que vous avez préféré vous installer ici à Kigali plutôt que rester au Niger, parce que vous avez aussi travaillé au Niger.
J'ai aussi travaillé au Niger. J'ai travaillé au Niger avec le gouvernement du Niger dans la régulation, dans les politiques des télécommunications. C'était une expérience qui était brève, mais qui était très enrichissante, que j'ai beaucoup appréciée. J'ai beaucoup appris de cette expérience-là. En tant que quelqu'un qui était diplômé, il n'y avait pas très longtemps, ils m'ont donné beaucoup d'opportunités. J'étais aussi conseillère du Premier ministre en ce moment au Niger. Et donc, j'avais eu beaucoup d'interactions. C'est quelqu'un qui demandait beaucoup de conseils aussi sur ce secteur. Donc, c'est juste pour dire que c'est une expérience juste différente. J'ai décidé de venir au Rwanda parce que je voulais travailler en académie. Pour une institution, je voulais faire vraiment de l'académie et je voulais travailler pour une institution comme Carnegie Mellon. Et Carnegie Mellon étant ici au Rwanda, je ne voulais pas nécessairement aller aux États-Unis ou quelque part. C'est quand même une bonne institution. Donc, le fait qu'il soit au Rwanda me permettait de faire plusieurs choses. Travailler en académie dans une institution qui me plaisait et en même temps être sur le continent. Donc, je ne connaissais pas le Rwanda en ce moment. Donc, ça n'allait pas être la motivation parce que je ne le connaissais pas en ce moment. J'ai découvert le Rwanda une fois venu ici. Et donc, mais c'est une agréable expérience.
Il faut peut-être rappeler aux auditeurs que Carnegie Mellon, c'est une université d'excellence américaine qui est la première université étrangère à installer finalement un campus ici, hein, en Afrique. Alors, vous êtes toutes les trois des femmes. Est-ce que vous avez senti plus de difficultés éventuellement pour faire votre trou, pour accéder au poste que vous souhaitiez, pour avancer dans votre parcours? Alors, une question.
Alors, moi particulièrement, non, j'ai pas trouvé cette difficulté parce que c'est dans les traditions de la population tunisienne, dans nos traditions qu'on sépare. On fait pas des différences entre les filles et les garçons, donc on reçoit toujours la même éducation et les familles se battent pour que leurs enfants, que ce soit des filles ou des garçons, aient les très bonnes éducations et poursuivre leurs études le plus possible. Donc ça, c'est de la particularité de la population tunisienne, c'est qu'elle soutient ses enfants pour continuer ses études. Et donc là, moi personnellement, j'ai eu la chance, et c'est pas que moi, c'est aussi pour les autres Tunisiennes, c'est d'avoir aussi des parents passionnés par la science, passionnés par la recherche, qui m'ont beaucoup aidée et ils m'ont beaucoup encouragée justement pour poursuivre mes études à l'étranger. Et ma belle famille et maintenant mon mari aussi, ils m'aident beaucoup quand je voyage, ils gardent les enfants et donc là, ça fait un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Eliane Baligero, vous avez animé une table ronde sur ce thème-là et vous avez demandé aux panélistes de donner concrètement des solutions, de faire le constat et puis de donner des solutions. Qu'est-ce que vous avez retenu ?
ce qui est important, au fond, c'est de focusser sur ce qu'il y a de positif. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on encourage les jeunes filles et les femmes de s'intéresser et de persévérer dans les domaines scientifiques? Comment est-ce qu'on s'assure, quand les femmes arrivent à un âge où elles veulent possiblement commencer une famille, comment on s'assure que on les perd pas dans le processus? Alors, c'est l'importance d'avoir des politiques qui soutiennent les femmes, aussi bien pour pouvoir avancer leur carrière et aussi de pouvoir commencer une famille. Parce que moi, c'était clair quand je faisais mon doctorat que je ne pouvais pas faire les deux. Et quand j'ai décidé de commencer une famille, je l'ai fait après avoir travaillé 5 ans en tant que directrice scientifique au Canada dans une compagnie biotechnologique. Et ça n'a pas été une expérience très positive pour mon VP quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Et après la naissance de ma fille, j'ai fait un choix délibéré de retourner à l'université en tant que chercheuse, parce que mes anciens directeurs de thèse, mon ancien directeur de thèse de maîtrise, m'a donné une possibilité de venir le remplacer et m'a donné beaucoup de liberté. Et ça m'a permis de revenir à l'université et d'initier mon travail en développement international et de voir comment les domaines des bioéconomies pourraient être développés en Afrique.
Aminata, vous, avez-vous dû faire des sacrifices? Parce que là, on comprend bien avec ce que dit Eliane, c'est que c'est elle qui a trouvé la solution. Ce n'est pas forcément les responsables d'équipe. Et vous, de votre côté?
Non, je ne pense pas que j'ai dû faire des sacrifices pour cela. J'ai fait des choix pendant mes études et après mes études. Et jusqu'à présent, je suis contente de mes choix. Le sacrifice, un des gros sacrifices que je pense, c'est globalement peut-être le fait d'être partie du Niger pendant longtemps. Donc, à un moment, il y a beaucoup de changements que j'aurais aimé être là quand ces changements-là s'étaient faits. Mais on ne peut pas être à deux endroits au même moment. Et ça peut être une des choses qui m'a manqué beaucoup.
De ne pas être restée au Niger.
Pas forcément de ne pas être restée. Je suis contente d'être au Canada, mais j'ai le fait de manquer en même temps ce qui se passe au Niger. Donc, le fait de ne pas pouvoir avoir les deux, par exemple.
Du Niger au Rwanda, on va poursuivre l'émission en écoutant une voix rwandaise que vous avez choisie, Eliane Oublagijoro. Vous pouvez nous la présenter?
Oui, bien sûr. C'est Cécile Kayebka. C'est la chanteuse préférée de ma mère, qui est maintenant décédée. Et la chanson s'appelle Umunezero, qui est vraiment la joie d'être ensemble.
Autour de la question au Rwanda.
On vient d'entendre sur RFI Umunezero de Cécile Kayebka.
On poursuit autour de la question à propos du Next Einstein Forum. Avec vous, Aminata Garba, vous participez ici à une table ronde sur l'économie digitale et l'innovation en Afrique. Au Rwanda, cette économie digitale, en fait, elle sert à tous les domaines. La santé, l'éducation, construire des institutions, c'est ce qu'a rappelé hier le président Paul Kagame. Ça irrigue tous les secteurs.
Et c'est ça que ça doit faire. C'est aussi ma définition du numérique. C'est vraiment avoir les technologies de l'information qui sont centrales et les utiliser pour les autres secteurs. Bien sûr, quand on regarde les télécommunications, comme on l'entend, c'est avoir les réseaux de communication qui sont là. Et ces réseaux de communication nous permettent d'appeler, d'envoyer nos messages, de communiquer. Mais au-delà de ça, vraiment, l'économie digitale, c'est utiliser ça au-delà de cette communication pour faire en sorte que les autres secteurs soient améliorés. L'éducation, la santé, l'énergie. Aujourd'hui, on parle des systèmes d'énergie où on prend l'information pour pouvoir avoir une plus grande efficacité des systèmes d'énergie, donc les mettre intelligents. Donc, c'est utiliser les communications ou les technologies de communication et faire en sorte qu'on développe les autres secteurs. Et ça, ça peut avoir un plus grand impact dans les pays en développement que dans les pays développés. Parce que dans les pays en développement, les infrastructures ne sont pas en place. Il n'y a pas aussi l'histoire. On n'a pas par exemple, si je prends l'exemple des États-Unis ou du Canada, où on a tout le système qui est mis en place, les câbles, les fils. Donc, il faut utiliser ces réseaux. On ne les a pas. Donc, c'est plus facile d'aller d'un endroit où les réseaux ne sont pas là et de mettre en place cette économie-là, d'utiliser l'éthique pour faire des systèmes intelligents que dans un endroit où on a les systèmes historiques qui sont en place. Et je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est ça la définition de numérique.
Sur tout le continent, c'est un souci, ça. C'est un gros souci.
C'est un gros souci sur tout le continent, dit Caroline, et ça suscite la créativité, puisque c'est en Afrique qu'est né le paiement, par exemple, par téléphonie mobile.
Exactement, parce que encore une fois, on voit ça, c'est pour combler un manque d'infrastructures. Dans des pays où on n'a pas besoin de ça, où on a les cartes bancaires, où on peut payer où on veut très facilement, on n'a pas, c'était pas un besoin. Et dans les pays africains où l'infrastructure n'est pas là, ça devient un besoin. Donc, on peut utiliser des applications pour maintenant contrecarrer un peu ce manque d'infrastructure. Et je pense que pour ces raisons-là, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information dans les autres secteurs peut avoir encore un plus grand impact parce que les infrastructures ne sont pas aussi solides que dans les pays développés.
Là où peut-être les enfants africains iront plus vite que les autres, c'est dans l'appropriation justement de ces technologies et du langage informatique. À propos de langage informatique, y a-t-il une seule et unique langue ? Alors que se termine la semaine de la francophonie, alors qu'ici autour de la table on parle tous le français, on peut s'interroger sur le fait que notre langue, le français, nous pénalise éventuellement. Eh bien en tout cas, c'est ce qui a motivé une des ambassadrices du Next Einstein Forum, Arielle Kitio-Tsamo. Elle est ambassadrice à Yaoundé au Cameroun, un pays bilingue, voire trilingue. Elle a fondé Ketsi, une jeune pousse qui veut ouvrir l'accès au code informatique dès le plus jeune âge aux enfants francophones. On écoute Arielle Kitio-Tsamo.
Aujourd'hui, être illettré, ce n'est plus juste ne pas savoir lire ou écrire ou calculer, c'est ne pas savoir parler à un ordinateur, c'est ne pas savoir utiliser de manière efficace les nouvelles technologies. Or, on a 54,5 millions de personnes qui apprennent le français tous les jours, mais qui veulent également apprendre la nouvelle technologie, l'alphabet de l'ordinateur. Sauf que la première barrière, c'est l'anglais. Parce que l'anglais s'est positionné aujourd'hui comme la langue du digital, comme la langue de la science, en fait. Donc, la langue française, la langue espagnole, la langue, toutes les langues sont des langues au même titre que les langues de l'ordinateur. Donc, on s'est dit, tout enfant, toute personne qui sait parler français devrait savoir parler l'alphabet de l'ordinateur.
Savoir coder.
Savoir coder, en fait. Donc, on a donc créé le logiciel ABC Code, ABC comme l'alphabet français. ABC Code, c'est donc un logiciel fun, intuitif et adaptatif qui permet à toute personne et surtout aux enfants qui savent écrire la langue française de pouvoir laisser libre cours à leur créativité, créer des logiciels innovants, des histoires interactives, des petits robots qui permet de résoudre les problèmes qui les passionnent, en fait, en se libérant de la contrainte de savoir parler anglais.
Cet ABC Code, ce logiciel-là, il peut être utilisé sur tout le continent africain et ailleurs aussi.
Oui, donc nous sommes en train de planifier ce lancement officiel, mais c'est une plateforme qui sera accessible gratuitement, mais qui est associée à une plateforme de e-learning, c'est-à-dire qu'un enfant qui est au Bangladesh, qui est en Roumanie, qui est au Maroc, peut rester derrière son ordinateur, apprendre à utiliser la plateforme en ligne, se faire certifier même, laisser libre quoi son imagination et publier à toute la communauté le logiciel qu'il a fait pour que d'autres enfants réagissent, pour qu'ils contribuent ensemble et qu'ils avancent. C'est-à-dire créer une communauté francophone dans le digital, en fait. Le français est une langue qui peut être la langue de l'Internet, du digital.
L'une d'entre vous veut-elle réagir à ce logiciel ABC Code en français ?
Moi, je trouve que plus on a des jeunes sur le continent africain qui codent, mieux c'est. Et c'est pour moi, je trouve que inclure les citoyens sur le continent lusophone, francophone, anglophone, tout le monde doit avoir accès aux mêmes outils. La langue ne devrait aucunement être une limitation, au contraire, c'est une richesse. C'est une richesse qui amène une diversité de pensées, de visions, qui fait juste enrichir notre capacité d'innovation et de créativité.
Ce que l'on constate, c'est que quand on est scientifique, on voyage beaucoup, on apprend d'autres langues et on se frotte aussi à d'autres cultures. Rim Kefi, ça a été le cas, vous nous expliquiez que vous n'aviez pas forcément choisi de partir étudier en France. Une opportunité s'est présentée à vous et maintenant vous voilà revenu en Tunisie. Vous êtes spécialiste de l'ADN ancien, mais finalement, le temps que votre laboratoire se monte, vous vous orientez vers des applications utiles. Ça n'est pas un trop grand sacrifice de travailler sur la génétique des populations bien vivantes et non pas l'ADN ancien, l'ADN des dinosaures ou je ne sais quoi.
Je pense qu'une des particularités et une des richesses pour les chercheurs, c'est de s'adapter. Et donc là, moi, je suis toujours passionnée de la diversité génétique, que ce soit de la diversité génétique ancienne, préhistorique ou actuelle. Donc les populations depuis la préhistoire se sont adaptées à différents écosystèmes pour survivre. Donc on fait pareil. Et donc là, à chaque fois qu'il y a une nouvelle problématique, on doit faire face, on doit adapter nos technologies, s'adapter nous-mêmes. Et voilà, on a toujours. Et c'est ça l'importance d'un chercheur et d'un scientifique.
Vous illustrez parfaitement bien ce que la science peut apporter effectivement au développement du continent. Notre avenir commun se joue-t-il ici, sur le continent, à Kigali ou ailleurs? RFI en FM sur 92.9, c'est le Guinéen Mo Kouyaté qu'on vous glisse entre les deux oreilles.
Autour de la question, au Next Einstein Forum.
Walide nana, merede nana, zigade nana, nkenem fe nana ki tambore na, nyoti de nai, marili ti de, waro fe nana.
S'adapter pour accepter les conditions qu'on vous offre, est-ce que ça a été nécessaire pour vous, Eliane ?
Absolument. Quand j'ai quitté le secteur de la biotechnologie au niveau de l'industrie privée et que je suis retournée à l'université, j'ai réalisé que j'étais dans un département de phytotechnologie. Et puis, ce que j'ai réalisé, c'est que l'intérêt que j'avais par rapport au développement international et comment lier mes études en génétique moléculaire avec un retour potentiel en Afrique, je réalisais qu'il y avait un écosystème qui manquait. Et un des éléments importants dans cet écosystème, c'était de créer des politiques qui favorisaient la recherche. Et alors, j'ai réalisé que j'étais pas dans le bon département. Et j'ai quitté ce département pour prendre un autre poste, en fait. Et mon titre exact, c'est professeur des pratiques publiques-privées. Et c'est un poste aussi qui me permet de faire de la recherche à l'université et de poursuivre une carrière en tant que consultante dans le domaine du développement international, qui me donne des opportunités de venir un peu partout en Afrique, à Haïti, je voyageais en Europe. Et alors, l'importance du dialogue et de l'alignement des valeurs des secteurs est essentielle. Et pour pouvoir faire ça bien, il faut une qualité de communication qui permet tout le monde de venir à table ensemble et de dire nous allons avancer ensemble. Et dans ce processus, ce que j'ai réalisé, c'est qu'un des manques qui existait, c'était les formations dans le domaine du leadership. Et je me suis lancée dans ce domaine-là pour pouvoir créer un espace où les scientifiques, où les personnes dans le domaine politique, dans l'industrie privée, pouvaient vraiment initier un dialogue, créer une vision auquel tout le monde pouvait amener leur meilleur. Et au fond, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'enseigne le leadership dans des programmes exécutifs, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour les parlementaires à travers le monde. Et ce que je réalise, c'est que plus les gens dans le domaine politique développent leur intelligence émotionnelle, leur capacité de communiquer leurs idées, plus ils sont capables d'inspirer les citoyens, de s'engager et de donner leur meilleur pour avancer dans la même direction. Et aussi, ça amène une qualité éthique incroyable parce que ça permet à tout le monde d'amener leur meilleur, mais aussi de savoir que moi, j'ai peut-être des difficultés et puis Aminata peut m'aider. Et alors, il y a moins de chances de corruption parce qu'on se dit, quelqu'un va m'aider là où je suis faible. Et au fond, le leadership pour être au service de la planète, c'est vraiment un leadership éthique où tout le monde est capable de contribuer et où il n'y a aucune raison d'amener une corruption quelconque.
Une question peut-être qui fâche, c'est en termes de salaire ou de poste, est-ce qu'il est si facile que cela de rentrer en Afrique parce que vous êtes directrice de recherche, responsable de laboratoire, d'équipe? Est-ce que les infrastructures sont là aujourd'hui? Est-ce qu'on vous propose des postes qui correspondent à votre valeur, à votre niveau?
Oui, c'est une question qui fâche. Oui, mais bon, c'est parmi les difficultés qu'il faut surmonter et les pallier. Et il faut accepter aussi, hein, parce que moi, quand j'étais en France, j'avais une bourse. Au départ, donc la bourse pour le master, c'était 500 euros. Après, pour la thèse, c'était 1000 euros. Et quand je suis rentrée en Tunisie, donc ça fait une année et demie sans salaire, donc du travail bénévole. Après, j'étais contractuelle. Je passe un peu les petits salaires. Mais bon, actuellement, en maître assistante, je touche 700 euros. Donc c'est moins que ma bourse à l'époque. C'est vrai que c'est pas le même niveau de vie, mais quand même, on est moins payé peut-être que les Algériens ou que les Marocains aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des difficultés économiques dans le pays justement après la révolution. Il faut le comprendre et on peut s'adapter. Voilà aussi, il faut toujours s'adapter. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, moi ce que je disais toujours à mes étudiants à l'université, c'est pas l'argent qu'on cherche, mais on est passionné par la recherche et on est passionné par le résultat et l'impact de nos résultats de recherche sur la société. Quand on voit des biomarqueurs qui peuvent aider à guérir, aider à éviter des complications dégénératives, etc., ça c'est une satisfaction. Quand on est ici aujourd'hui pour avoir un prix, c'est une satisfaction personnelle et on est fier. Et donc là, bon, l'argent, ça viendra après.
Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le poste. Est-il si facile que ça de trouver un poste qui correspond à sa valeur? Est-ce qu'on ne vous demande pas de recommencer plus bas dans l'échelle? Aminata Garba.
Alors, je ne sais pas si je peux répondre vraiment à cette question. Je n'ai pas autant d'expérience que ça. Je voulais surtout répondre à la première question et dire qu'effectivement, je pense que ce n'est pas que l'argent. Par exemple, moi, un exemple, quand je suis allée faire mon post-doctorat en France, la bourse était de 36 000 dollars canadiens en ce moment. Or, j'avais une offre d'emploi au Canada de 120 000 dollars par an. Mais j'ai été faire le post-doc. Pourquoi? Parce que je voulais aller en académie. Et je m'étais dit, oui, c'est un poste en industrie, c'est divisé, c'est 3-4 fois le salaire. Mais quand je regarde le but final, ce n'était pas la direction que je voulais. En tout cas, pas en ce moment. Peut-être plus tard, mais en ce moment, ce n'était pas la direction. Et je m'étais dit, si je veux me lancer en académie, un post-doc va m'apporter mieux dans mon cursus que d'aller ici, même si je suis payée plusieurs fois le salaire. Donc, il faut faire les choix en fonction de ses convictions. Toutefois, quand les gens rentrent au pays, je pense aussi que nos pays doivent faire des efforts pour encourager, parce qu'il y a énormément de gens que je connais personnellement au Canada, aux États-Unis, je les rencontre, ils me disent, je veux te parler, tu es rentré en Afrique, on veut rentrer en Afrique, mais on n'arrive pas parce qu'on n'a pas les opportunités, les salaires. Alors je pense qu'il faut encourager ces jeunes à rentrer, il faut les encourager et il ne faut peut-être pas demander à quelqu'un qui gagne 100 000 dollars aux États-Unis de venir pour gagner 10 000 dollars. Donnez-lui un peu plus d'opportunités et surtout donnez-lui les chances de mettre en valeur ce qu'il a appris. Et je sais aussi que ces gens-là, certains sont prêts à rentrer pour 4 fois moins en notant qu'on les laisse utiliser les capacités qu'ils ont pour faire quelque chose. Ils ne veulent pas venir devenir secrétaire de quelqu'un. Ils veulent venir travailler pour les connaissances qu'ils ont acquises. Et si on leur donne ces chances-là, je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont rentrer et qui vont contribuer à l'économie du pays.
Caroline, sans votre voix, mais avec le langage des signes, vous avez attrapé le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Marie Tognane, qui est mathématicien sénégalais. Et là, vous lui avez demandé son éclairage sur la question.
C'est vrai que nos chercheurs africains et en particulier aussi sénégalais, beaucoup ont envie de rentrer au pays et se posent la question que doivent faire les pays pour créer un environnement favorable à la recherche. Parce que pour un chercheur, c'est d'abord cet environnement favorable. Ensuite, ce sont les conditions aussi sociales, salariales. Pour le Sénégal, nous avons fait des réformes importantes depuis 2013. Et en 2015, nous avons adopté la loi portant réforme des titres. Et cette loi a levé la condition de nationalité pour le recrutement des enseignants-chercheurs. Désormais, tous les appels d'offres, il n'y a pas de nationalité. Que vous soyez sénégalais, africain, allemand, chinois, vous pouvez postuler. Et nous avons des Africains non sénégalais. Nous avons des Européens qui aujourd'hui enseignent dans nos universités. Il y a eu aussi l'amélioration des conditions salariales. Et tout récemment, il y a juste 15 jours, nous avons signé une convention avec le syndicat autonome de l'enseignement supérieur pour la retraite à 65 ans, mais avec 70% à partir de juillet prochain du dernier salaire net. Et en 2001, cela passera à 85% du salaire net. Ces conditions vont permettre d'avoir plus d'attractivité. Et nous l'avons d'ailleurs remarqué parce que récemment, l'université Amadou Makhtar Mbow, qui est en construction, a lancé son appel à candidature. Nous avons eu 1300 candidatures à des postes d'enseignants-chercheurs, dont 1000 sont titulaires de doctorat. Et une grande partie viennent de la diaspora. Mais il y a aussi une autre condition qui, sans doute, pour le chercheur, est la plus importante. C'est l'environnement de travail. Les chercheurs, quand ils sont en Afrique, ils étaient souvent perdus, particulièrement pour la documentation. Dans ce sens-là, nous avons signé avec Elsevier une convention. Et cette convention nous a permis, depuis 3 ans, de mettre à la disposition des étudiantes et des étudiants, des chercheurs, des doctorantes et des doctorants sur les campus et gratuitement les bases de données Sciences Directes, les revues Masson, les revues Scopus. Et pour les lettres et les sciences sociales, nous avons fait la même chose avec Kern Info. Et ceci, évidemment, permet aux chercheurs de ne plus avoir besoin d'aller obligatoirement au nord pour chercher la documentation. C'est vrai que je suis mathématicien, c'est vrai que je suis enseignant, je suis aussi quelqu'un qui aime construire, bâtir. Et j'étais recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le numérique est un défi. Le numérique, je le dis toujours, c'est l'avenir de l'enseignement supérieur dans le monde et en particulier en Afrique où la question de l'accès devient critique. Puisque des efforts ont été faits dans le primaire, le collège, le lycée, et il y a une grande vague d'arrivées au niveau du supérieur. Et c'est pourquoi nous avons travaillé sur une université virtuelle du Sénégal, mais qui ait sa personnalité, qui ne perde pas certains atouts du présentiel. Le travail en équipe, l'esprit d'appartenance, la crédibilité des diplômes. Et enfin, l'université virtuelle, le numérique, doivent permettre aux jeunes, partout où ils sont sur le territoire national, d'accéder à l'éducation, à la formation professionnelle et au diplôme académique, licence, master, doctorat. Et donc cette université virtuelle, nous l'avons conçue avec des espaces numériques ouverts, ces sortes de e-learning centers. Et ensuite, évidemment, ces espaces numériques sont ouverts à la communauté, sont ouverts aux jeunes et vont devenir des portes d'entrée pour tout le monde au numérique. Cette université, on l'a fait évoluer de bébé au petit garçon, à la petite fille qui savait juste se mettre, s'asseoir. Aujourd'hui, elle marche ardument et on veut qu'elle court, qu'elle gambade sur tout le continent. Et en plus, elle a au Sénégal 20 000 étudiants. En 5 ans, elle est devenue la deuxième université du Sénégal. Et nous allons célébrer samedi prochain 500 premières licences offertes par cette université. C'est un espoir que le numérique offre, qui permet à l'Afrique de faire un saut qualitatif extraordinaire. Au Next Einstein Forum, vous avez entendu des jeunes Africains qui font l'intelligence artificielle, qui font le big data, qui font la robotique, qui font la cybersécurité, certains qui sont dans la génomique ou la génétique moléculaire, d'autres qui sont dans la simulation numérique, d'autres dans l'astrophysique et même dans ces grandes théories cosmologiques d'Einstein. Nous sommes au cœur de la science du 21e siècle. Et la jeunesse africaine donne à l'Afrique, si elle y met l'éducation, la formation, si elle y met les infrastructures de recherche dont ont besoin ces scientifiques, la possibilité, je dirais même l'impérieuse nécessité d'être au cœur de ce qui se fait dans ce 21e siècle. Et nous aurons gagné le pari de 1960, parce qu'en 60, vous vous souvenez, cette fameuse phrase: l'Afrique est mal partie. Ce qu'on veut, c'est que l'Afrique parte bien dans ce 21e siècle.
You keep pushing the blame on now I call on your father. You say they came and they took all we have possessed. They have to take the abuse and they have caused the present state within children history. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. Lies to us, blind us, they saved us, misplaced us, strengthened us, saddened us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up, world.
Africans sur RFI, ça réveille à l'image de l'énergie qui se dégage ici à Kigali au Next Einstein Forum. Autour de la question comment encourager les chercheurs panafricains à revenir s'installer sur le continent, vous vouliez ajouter quelque chose, Eliane?
Oui, une autre réalité, c'est qu'en Afrique, les opportunités d'affaires se multiplient. Et les opportunités d'affaires au niveau technologique, au niveau d'investissement se multiplient. Alors, en même temps que le retour à l'académique ou le retour pour travailler des gouvernements peut impliquer des salaires faibles. Par contre, il faut savoir que les parlementaires kényans sont les mieux payés sur la planète, 160 000 dollars US par an. Okay. L'autre chose, c'est qu'il existe des postes dans le domaine de l'investissement en Afrique, parce que c'est un domaine en pleine croissance, avec des salaires $1 million annuels. Et aussi, le continent africain est le continent qui produit le plus de millionnaires sur la planète en ce moment. Et aussi, les industries à développer en Afrique sont des industries qu'on appelle les sources potentielles des futurs milliardaires sur la planète. Alors, oui, il y a des baisses de salaire qui sont acceptées, mais après, on a une compréhension du contexte local qui permettra à mes deux collègues ici, si elles le veulent, de travailler, d'initier des compagnies en télécommunications ou des compagnies au niveau de l'analyse génétique qui pourront les rendre richissime. Alors, l'important, c'est d'apprendre le contexte local et de pouvoir le maximiser. Alors, des fois, il faut reculer pour mieux avancer, mais aussi, plus les jeunes vont travailler dans le domaine technologique, plus il y aura des sorties technologiques qui vont ramener des impôts, qui vont faire que les gouvernements auront plus de moyens, pourront mieux payer les académiques, les personnes qui vont rentrer dans le domaine public. Et ça, ça va faire que de nouvelles opportunités seront là.
Sur ces propos, Liliane, on va laisser Rim Kefi partir. Merci beaucoup pour votre présence.
Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour les auditeurs de RFI que je découvre à Kigali.
Autour de la question.
So at the same time that we have this sense of confusion globally, sense of anxiety among young people, scandals of the abuse of data, it's deeply ironic. Because the progress of science has never been more exciting and the reach and power of it has never been greater.
Le Next Einstein Forum sur RFI.
C'était la voix de Neil Turok, physicien sud-africain, fondateur et directeur du réseau AIMS, African Institute of Mathematical Sciences. Aminata, dans un monde troublé, les valeurs positives de la science, j'imagine que vous adhérez à cette idée de Neil Turok.
Absolument. Je pense que la science va être un élément fédérateur. La science et les technologies vont apporter beaucoup d'innovations, beaucoup de choses vers auxquelles se tourner. Beaucoup aussi, beaucoup d'espoir dans la création d'emplois, dans des nouvelles choses. Et donc, j'adhère absolument à ce qu'il a dit.
Eliane, l'avenir, il est ici en Afrique?
L'avenir est absolument en Afrique. D'ici 2050, la moitié des naissances sur la planète vont se faire ici en Afrique. Et c'est important d'outiller cette jeunesse qui n'est pas encore là, de préparer le terrain pour que quand ils arrivent à l'école, quand ils poursuivent leurs études ou quand ils arrivent sur le marché du travail, qu'ils aient une capacité créative de s'adapter au 21e siècle. Pour le moment, on ne sait pas encore quels vont être les emplois les plus importants dans 25 ans. Et alors, c'est important de créer des systèmes d'éducation qui vont maximiser la capacité d'adaptation de la jeunesse africaine aux problématiques du 21e siècle. La science est extrêmement importante parce que plus le monde est chaotique, plus il est important d'avoir des données qui nous ramènent à la vérité. Et cette vérité nous permettra d'avancer dans le 21e siècle et de s'assurer que les systèmes positifs, les systèmes qui amènent la créativité et l'innovation vont nous amener dans un espace positif, dans un espace où l'économie durable sera une priorité, dans le domaine où la quatrième révolution industrielle sera au service de l'écologie et de s'assurer que l'humanité de chacun et de chacune est respectée et que nous avons des conditions économiques qui vont permettre à chaque enfant de vivre avec dignité.
Merci Aminata Garba, merci Eliane Oubalijoro pour ce message d'espoir, d'optimisme autour de l'importance de la science pour nos sociétés aujourd'hui et demain.
Merci.
Merci.
Et mille merci à Sophie Bécherel, merci d'avoir prêté sa voix. L'intelligence collective est en marche.
On vous souhaite un bon rétablissement.
Merci. Caroline.
Merci aussi à Nicolas Benita pour la réalisation Nomade en plein cœur de Kigali au centre des congrès.